Semaine Sainte 2019.
Semaine Sainte 2019, le MAG, Emmanuel Pella.
Vendredi Saint, le vent d'automne ne faiblit pas ici à Toulouse, faisant résonner comme un souffle rauque autour du couvent des Carmes de la Ville Rose. Une image peut-être du souffle rauque du mal qui vient la plupart du temps un jour nous assaillir et nous faire peur. En ce Vendredi Saint, les frères Carmes de Toulouse nous prennent par la main pour nous aider à faire face à ce grand combat, l'heure de Jésus comme l'on dit, l'heure de l'homme-Dieu. Voilà, Vendredi Saint au Carmel, nous sommes aujourd'hui avec le chef, avec le prieur de ce couvent, frère Jean-Fabrice, vous êtes donc prêtre religieux Carme et donc au couvent de Toulouse et vous êtes donc le prieur, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour, bienvenue à tous les auditeurs, pour une fois n'est pas coutume, on les salue puisqu'ils sont un certain nombre à nous rejoindre pour ce MAG spécial Semaine Sainte. On pense particulièrement à ceux qui sont de Radio Ecclesia dans le Gard, de Radio Lapourdie dans le diocèse de Bayonne, et de Radio Fidélité en Mayenne. Comme pour toutes ces émissions du Tridium Pascal, on essaye de découvrir un petit peu la vie du Carmel, voilà, comprendre ce qui fait la particularité ou les trésors de votre vie spirituelle. On essaye de trouver à méditer le mystère du jour et puis très généreusement, les frères qui passent à l'antenne ont accepté de parler à la première personne. Je sais qu'hier, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés ou qui se sont sentis rejoints par ce que le frère Maximilien Marie a pu partager. Alors, hier, on avait parlé, comme je crois Isabelle l'a fait avec vous, des débuts du Carmel. Ces soldats, en fait, qui à un moment ont choisi de chercher Dieu, donc chercher un autre absolu, vous vous sentez un petit peu moins soldat ou pas ?
Moins soldat, ça serait peut-être beaucoup dire. De fait, la règle du Carmel nous propose tout un équipement de combat spirituel. Il s'agit de lutter contre le mal, fort dans la foi, et donc pour cela, on nous propose toute une panoplie avec le souci de la charité, avec la foi, bien sûr, toutes ces armes spirituelles qui nous permettent de travailler pour le Seigneur, de lutter contre le mal qui nous assaille toujours.
On a compris donc que vous n'aviez pas de fondateur, qu'au départ c'était donc des ermites qui avaient choisi de vivre au Mont Carmel en Terre Sainte, et puis assez rapidement donc ils ont été contraints de quitter la Terre Sainte avec l'arrivée des Sarrasins et ils sont allés s'installer en Europe. Vous disiez, je crois, à Isabelle O'Neill, il me semble que c'était hier matin, qu'il y a toujours eu une tension dans votre ordre de passer, on va dire, de votre grotte au monde. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ça aux auditeurs peut-être qui pourraient nous prendre aujourd'hui? Même le frère Maximilien Marie hier disait c'est vrai que ma cellule c'est ma grotte en fait, et il faut s'y sentir bien dans sa grotte. Expliquez-nous cette tension, cet aller-retour qui est peut-être particulièrement aigu au sein du Carmel.
Alors en effet, la cellule, le mot même de cellule vient de kélion qui signifie en grec le grotte. Donc c'est devenu la cellule du moine avant de devenir des cellules de prison, d'ailleurs tout à fait autre chose. Et la cellule, c'est notre lieu de vie. Ce n'est pas simplement un lieu où on se retire la nuit pour aller dormir, mais c'est le lieu où nous vivons habituellement, sauf lorsque, justement, la nécessité nous appelle à en sortir pour aider les autres d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a dès le départ cette tension en nous entre l'appel du désert de la vie contemplative avec Dieu seul, recherché dans la solitude, le silence, avec ses longs temps d'oraison, de dialogue intime avec le Seigneur.
C'est 2 heures par jour d'oraison, plus le temps passé en cellule.
Voilà, c'est cela. Mais en fait, ce temps passé en cellule sert à favoriser les temps d'oraison. Il y a en fait une espèce d'interconnexion entre les temps réservés à la prière et puis le reste de la vie en cellule. Je veux dire que la vie en cellule par le silence favorise le recueillement de l'oraison et à son tour, le recueillement de l'oraison va rayonner sur toute la journée et nous mettre en paix pour vivre tout le reste de la journée. Or, en face donc de cette vie en cellule, il y a les appels qui nous proviennent de l'Église, du monde, tous ces gens qui sont là autour de nous et qui nous demandent, parfois en nous prenant pour des saints, ce en quoi ils ont tort, de les aider dans leur vie spirituelle. Et nous ne pouvons pas rester indifférents à cet appel. Et donc, il y aura toujours cette tension, jamais résolue, entre la nécessité du silence, de la solitude, et la nécessité aussi d'un apostolat pour les autres.
Un de vos frères Carme me disait avant l'émission qu'il passait son Triduum Pascal à accompagner des couples qui sont des recommençants, qui se posent des questions sur la foi. Donc même pendant le Triduum, en fait, il vit cet apostolat. Vous expliquez, ou en tout cas le père Maximilien Marie expliquait hier que l'essentiel de cet apostolat, c'est un apostolat spirituel. Quel sens ça a que vous soyez au cœur des villes? Parce qu'en fait, vous pourriez, comme d'autres traditions monastiques, avoir choisi de vous retirer d'abord dans des lieux déserts, des lieux inhabités. Là, vous êtes au cœur des villes. Est-ce pour rendre la tâche encore plus difficile, la tension encore plus extrême? Pourquoi les monastères sont-ils au cœur des villes?
Oui, il s'agit là d'une tradition assez ancienne, mais qui est vraiment encore pleinement pertinente d'être située dans les villes, parce que ça facilite le contact avec toutes ces personnes qui viennent nous trouver. Certaines d'entre elles, bien sûr, peuvent venir pour des exercices spirituels, pour une semaine de retraite, ou voilà. Mais ça reste moins important que la présence de très nombreux groupes qui viennent nous voir, ou aussi de personnes qui individuellement recherchent un accompagnement spirituel. Et pour cela, il est plus facile de venir dans la ville où ils habitent. Par exemple, pour une soirée simplement.
Vous êtes là pour être au plus près des gens, en fait.
Oui.
L'autre chose peut-être qu'il est important de souligner, c'est le propre de toute vie de prière, hein, mais il me semble que c'est particulièrement important ou central au Carmel, surtout quand on entend cette phrase là de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Je veux être le cœur de l'Église », c'est ça ?
Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour.
Voilà, je serai l'amour. Parlez-nous un tout petit peu de la dimension d'intercession, c'est-à-dire qu'on est Carme dans la ville pour répondre à des demandes de gens qui viennent taquer à votre porte et qui vous prennent pour des saints, comme vous dites, et qui ont besoin de conseils spirituels, d'avancer dans la vie spirituelle, mais votre vie n'est pas donnée qu'à ceux qui viennent toquer à votre porte. Parlez-nous de l'importance de cette intercession. On imagine que ça va au-delà de Toulouse même.
Bien entendu.
Vous donnez en partie votre vie pour ça, non?
Ah oui, largement. Premier apostolat, je dirais, c'est même celui de la prière elle-même, qui est toujours, non pas pour nous, mais pour l'Église, pour le monde, pour la ville de Toulouse, par exemple, pour tous ceux qui en ont besoin, que nous ne connaissons pas forcément. Il y a des personnes qui vont nous laisser des intentions de prière, soit sur Internet, soit sur le cahier qui est dans le fond de l'Église, ou en nous téléphonant. Ils vont nous demander donc cette aide explicitement, mais très souvent, nous ne connaissons pas la portée de notre prière. Or, c'est là un héritage déjà de Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle. Toujours, notre vie de prière doit avoir pour but l'intercession en faveur de l'Église, du monde, de l'évangélisation, de tous les besoins qui se présentent pour notre monde, pour notre société aussi.
Est-ce que c'est pas difficile à la longue de persévérer dans la vie religieuse comme ça quand une partie, on va dire, de votre travail, enfin en tout cas de votre vie donnée, vous le faites complètement à l'aveugle en fait. Vous ne verrez jamais ici-bas les fruits peut-être de la grande majorité de vos prières.
Non, heureusement, on ne les verra pas. Heureusement, je crois que s'il n'y a pas de lassitude. C'est plutôt un acte de foi dans la miséricorde de Dieu qui, en dépit de la pauvreté de notre prière, de notre existence, décide de répondre généreusement à cette prière en accordant ses grâces. Nous savons qu'il les accorde toujours. Parfois, il nous arrive d'avoir d'ailleurs des retours, des remerciements sur un cahier. Ah, voilà, telle intention que je portais, que je vous ai confiée, j'ai été exaucé, c'est beau, merci. Merci à Dieu, en réalité.
J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'importance, on va dire, non seulement de la vie de prière, donc de la vie d'oraison, c'est donc cette forme de prière silencieuse, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, on se tient en silence, je crois que c'est tiré de l'écriture, hein, ferme la porte de ta chambre, prie en silence et ton père voit ce que tu fais. Je sais pas si c'est texto, mais en tout cas c'est proche. J'ai souvenir d'un frère qui était venu, un frère Carme, qui était ici à ce couvent avant, frère Jean-Baptiste, qui aujourd'hui est directeur de la revue Carmel, donc une de vos revues, qui disait que en fait, dans toute à toute époque, tout grand renouveau social ou politique passe d'abord par un renouveau mystique, par un renouveau de la prière. Alors il citait par exemple ce qu'on appelait le grand siècle en France, et avant donc le renouveau qui avait eu lieu avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, en fait, en quoi vous êtes un peu aux avant-gardes, on va dire, de la transformation de la vie sociale et politique?
Cela, c'est une conséquence de la question que vous posiez juste auparavant. Cela fait partie des effets de la prière d'intercession que on n'est pas forcément amené à connaître immédiatement, parce qu'il peut y avoir un laps de temps un peu prolongé entre les deux. Mais il est certain que Dieu prépare l'histoire du monde par le don caché, secret, de ces personnes qui vivent de la prière et qui ainsi vont amener des tournants dans l'histoire politique, sociale du monde. Alors,
est-ce que vous pouvez prendre des exemples ?
Oui, bien sûr. Il y a eu donc au grand siècle ce mouvement mystique
du XVIIe siècle.
L'abbé Brémond, qui a écrit une longue histoire du sentiment religieux en France, parle d'un siècle de mystiques où de nombreuses personnalités, pas toutes canonisées du reste, hein, mais certaines d'entre elles-ci, comme Saint Vincent de Paul, Saint François de Sales, mais aussi on voit Bérulle, Condrin, Noulot, enfin des gens qu'un petit peu oubliés aujourd'hui, qui ont eu eux-mêmes une vie mystique intense et qui ont porté par leur souffle toute cette époque-là du XVIIe siècle. Mais on pourrait citer bien d'autres figures de sainteté aussi qui ont été suscitées par Dieu précisément pour répondre à des besoins nouveaux du monde, de l'Église.
C'est-à-dire qu'à chaque époque, il y aurait, on va dire, ces grandes crises ou ces grandes tentations, c'est ça ? Et du coup, Dieu susciterait à chaque fois une réponse.
Oui,
c'est pareil, prenez un exemple.
On peut citer par exemple Saint François d'Assise, qui au début de sa vocation entend cette parole que lui adresse le Christ à San Damiano, « François, reconstruis mon église qui tombe en ruine ». Donc il faut voir la force de ces paroles. En ce début de XIIIe siècle…
Pourquoi tombait-elle en ruine l'église ?
L'église tombe en ruine parce que il y a une désaffection par rapport à la personne du Christ, il y a la tentation de la richesse qui se fait jour. C'est le début du capitalisme en Italie.
Les débuts de la Renaissance.
On est au début du XIIIe siècle. C'est vrai que l'Italie a au moins un siècle d'avance par rapport au reste de l'Europe. Et donc, avec toutes les tentations que cela peut comporter de consumérisme, de jouissance immédiate qui éloigne de la relation avec le Christ, et le mouvement suscité ainsi par Saint François d'Assise va prendre une ampleur extrême, puisque quelques années plus tard, le jeune ordre qu'il a fondé presque malgré lui, ainsi, regroupe déjà 5000 frères. Et on aura un peu la même chose avec Thérèse d'Avila au XVIe siècle. L'Église est alors confrontée au schisme de Luther et la réforme protestante, et puis la découverte de l'Amérique du Nouveau Monde, on se rend compte qu'il y a des millions et des millions de personnes qui ne connaissent pas encore le Christ. Thérèse d'Avila se demande ce qu'elle peut faire elle-même par rapport à ces nouveaux défis qui se présentent à l'Église, et ça va être ce renouveau mystique qu'elle va proposer avec l'oraison, et toute la vie d'oraison.
Renouveau mystique, très important. On sait combien de monastères a fondé Sainte Thérèse d'Avila, non ? C'était considérable, non ?
Alors, elle-même en a fondé assez peu, il y en a 17. Mais
17, c'est quand même pas mal, hein, en une vie, 17 en une vie. C'est...
En une vie, d'autant plus qu'elle a commencé un peu sur le tard quand même, lorsqu'elle avait atteint la cinquantaine. Mais le mouvement va se répandre encore bien après elle. Et en France, dès le tout début du XVIIe siècle, les carmélites vont s'installer en France et se développer considérablement. Ce seront des dizaines et dizaines de monastères qui vont se fonder au cours du XVIIe siècle, simplement.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour méditer plus spécifiquement donc sur le mystère du jour ce vendredi saint. Vendredi Saint au Carmel, c'est donc le mag que nous vous proposons sur Radio Présence, donc à tous les auditeurs, qu'ils soient de Midi-Pyrénées, du Gard, de Mayenne ou du diocèse de Bayonne. Nous sommes en ce Vendredi Saint avec un frère carme, puisque nous sommes toujours chez les carmes de Toulouse, le frère Jean-Fabrice, qui est prêtre religieux carme au couvent de Toulouse et qui est le prieur de ce couvent. Dans cette deuxième partie d'émission, donc avec vous, vous allez nous aider à essayer de rentrer dans le mystère que l'on contemple en ce jour. J'avais une question personnelle pour commencer. Même quand on est carme et même quand on est prieur, est-ce qu'on se sent tout petit au début de chaque Vendredi Saint, en se disant « Mon Dieu, je vais chanter, je vais prêcher sur quelque chose que je n'arrive pas tout à fait ou pas du tout à comprendre ?»
On ne comprendra jamais l'étendue de ce mystère, parce que c'est un mystère de don total de soi-même de la part du Christ. C'est l'action la plus divine qu'il ait accomplie de toute son existence. Et donc tout ce qui touche à Dieu nous dépasse de toutes parts, nous déborde complètement, de sorte que il nous faut toujours rester petit et nous lançons quelques coups de sonde dans le mystère pour en récupérer quelques bribes et essayer de les partager autour de nous. Mais nous ne pourrons jamais aller au-delà. Et surtout pas comprendre le mystère.
Et au risque d'être indiscret, vous me pardonnerez, mais votre vocation est donc de vous donner à Dieu. Vous cherchez donc dans le fin silence du Carmel, c'est ce qu'on a compris hier avec le frère Maximilien, une présence. Cette présence, en fait, c'est la présence du Christ ressuscité. C'est la foi des chrétiens, hein, de croire que dans ce silence, en fait, vous rencontrez quelqu'un. On imagine que du coup, vous avez peut-être une relation d'exclusivité avec... Avec Jésus ou avec le Christ, est-ce qu'on rentre dans son Vendredi Saint quoi, avec un ami ou amoureusement ou c'est juste un Dieu lointain? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus, on va dire, il y a aussi une dimension affective?
Oui, bien sûr, il y a une dimension affective. En Jésus, Dieu s'est fait tellement, tellement proche de nous que il se rend notre ami le plus intime, le plus proche. C'est donc toujours en même temps une expérience intérieure qui se produit en ce Vendredi Saint. Nous ne pouvons pas considérer Dieu comme quelqu'un de lointain, d'indifférent, puisqu'il a accepté non seulement de partager notre vie, mais de porter nos fardeaux, et ce, jusqu'à la mort, et la mort de la croix.
J'aimerais aussi que vous nous parliez un petit peu des... Alors, c'est probablement difficile, hein, mais des dispositions dans lesquelles Jésus était... Moi, j'ai souvenir d'une... d'une phrase de Anne-Catherine Emmerich, qui est donc une mystique allemande. Je vois vous lever les yeux au ciel. N'empêche que bon, elle est béatifiée, si je ne me trompe pas, qui rapportait qui aurait eu donc dans ses révélations la révélation du fait que Jésus, au début de son chemin de croix, aurait embrassé la croix. Ça peut paraître complètement fou d'embrasser comme ça, on va dire, l'objet de son supplice. Jésus est rentré en pleine liberté. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette liberté en fait que Dieu avait?
Oui, c'est la liberté de l'amour. C'est-à-dire que ce que subit Jésus dans sa passion, c'est assurément une profonde injustice, la plus grande même qu'on puisse concevoir, puisque lui qui est totalement innocent est condamné comme un malfaiteur et va être de fait exécuté à la manière des esclaves, de la manière la plus horrible qui soit. Et pourtant, il transforme cette injustice subie en un acte d'amour volontaire. Donc je crois que cette image de Jésus embrassant sa croix est extrêmement juste, extrêmement suggestive pour nous dire que librement, Jésus entre dans cette passion qu'il devait subir, il l'accepte, fait plus que l'accepter, il l'accueille totalement, il entre pleinement dedans pour s'offrir lui-même à son Père. Il transforme en offrande ce qui, au départ, n'était qu'injustice et mal de la part des hommes.
Alors je crois que pour vous, il est aussi important de souligner que le Christ, vous faites une distinction entre l'acte d'offrande libre, la libre offrande, et le fait de s'offrir soi-même. Est-ce que vous pouvez expliquer cette nuance qui vous semble importante ?
Non, je veux dire que, en réalité, le Christ s'offre totalement lui-même, corps, âme et esprit. Et je pars pour cela d'une petite réflexion que fait Saint Jean de la Croix au détour d'un de ses traités.
Donc Saint Jean de la Croix, il faut resituer pour nos auditeurs, c'est donc on va dire un des grands maîtres spirituels du Carmel.
Oui, donc, l'un de ses principaux
religieux carmes du XVIIe siècle.
Du XVIe siècle.
XVIe siècle, pardon.
Du XVIe siècle, tout à fait l'époque de Sainte Thérèse d'Avila, puisqu'il sera le premier carme déchaussé, c'est-à-dire qui suit la réforme de Sainte Thérèse d'Avila. Et il nous a laissé quelques écrits mystiques où il s'emploie à guider les personnes dans leur vie avec le Christ. Donc, a priori, il s'agit de la vie spirituelle, mais un moment, il s'interrompt pour faire une petite méditation sur la croix de Jésus et expliquer que l'offrande que Jésus accomplit de lui-même est une offrande totale dans laquelle il s'engage absolument comme sans doute jamais personne ne l'a fait, ni avant ni après lui. Pour cela, il s'appuie sur un passage de la lettre aux Philippiens, l'hymne qui figure dans la lettre aux Philippiens, où il dit que Jésus s'est abaissé lui-même jusqu'à s'anéantir en prenant la condition des hommes, et s'abaissant plus encore, il a enduré la mort de la croix, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix.
Et quand vous parlez des trois abaissements, corps, esprit, âme, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire ?
Alors c'est là que l'on voit cet abaissement le plus total. Selon ces trois réalités qui constituent un être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Pour ce que la dimension physiologique ou corporelle, c'est assez évident puisque Jésus meurt effectivement sur la croix. Mais Jean de la Croix fait observer, à la suite des récits de la Passion qui figurent dans les évangiles, que ce don de sa vie physique, il le fait aussi dans le mépris des autres. Et les récits de la Passion nous rapportent que les, gens qui observaient la scène se moquaient de Jésus. Il en a sauvé d'autres, qui se sauvent lui-même. Qui
Donc là, on n'est plus dans le corps, on est dans la dimension psychologique, c'est ça c'est...
Et là, ça nous mène à la dimension psychologique. De fait, nous savons par ailleurs, dans d'autres passages de l'Évangile, que Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il perçoit donc, avec la finesse de sa pénétration, quelles sont les pensées du cœur des hommes. Pas simplement ces quelques-uns qui étaient là autour de nous, mais il voit la noirceur qu'il y a au fond de notre cœur.
Vous voulez dire qu'il était témoin à ce moment-là, pas seulement de ceux qui se moquaient de lui directement, mais de, en gros, il entendait les gens penser autour de lui, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
Oui. Oui, réellement, il a cette perception de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et donc, il voit là, cette quantité de bêtises, de haine, de moquerie, de mépris à son égard. Et cela aussi, il l'accueille. De même qu'il a accueilli la croix, sa mort physique, il accueille aussi cette dimension psychologique de don de soi dans sa mort. Et puis il y a la troisième instance aussi, qui est l'instance spirituelle, c'est-à-dire le lieu de notre relation avec Dieu, cette partie de nous-mêmes qui communique avec Dieu. Saint Paul dira que nous avons un esprit qui est ce lieu de communication donc avec Dieu. Or, le récit de la Passion chez Saint Matthieu et chez Saint Marc nous a livré cette parole de Jésus en croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Citation donc du psaume 21, mais qui nous montre que si Jésus s'approprie les paroles du psaume, c'est qu'il vit vraiment un abandon du Père. Lui qui, habituellement, était en totale communion avec son Père, qu'il rejoint sans cesse dans la prière, tout à coup, il éprouve la séparation d'avec Dieu. Et là, c'est quelque chose de terrible parce que chacun d'entre nous, comme être humain, est fait pour Dieu. Donc nous portons en nous le désir de Dieu. Seulement chez nous, ce désir est toujours à moitié occulté par nos préoccupations diverses et variées, par d'autres désirs, désirs de pouvoir, désirs de possession, désirs de jouissance dans le monde, tout ça. Jésus n'a pas cela. Il est toujours orienté vers son Père et voilà que il éprouve en son humanité l'abandon de la part de Dieu. Et cela aussi, il l'accepte. Donc cette triple acceptation signe un triple don de lui-même, le don le plus total qui ait jamais pu être accompli par un homme.
Alors, à propos de cet abandon de Dieu, on a coutume de dire quand même que ce psaume qui cite Jésus en connaissait la conclusion, et la conclusion n'est pas, ça ne finit pas sur un sentiment d'abandon. Donc, on peut imaginer que c'était un tout petit peu plus nuancé que ça, ou qu'est-ce que ça peut vous inspirer comme commentaire ?
Le psaume se termine en fait par une action de grâce. Tu m'as répondu et je proclame ton nom dans l'assemblée. Au milieu de mes frères, je te louerai. Seulement, ce ne sont pas les derniers versets qu'il cite, c'est bien les premiers versets. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, bien entendu, à sa résurrection, Jésus entre dans la totale communion avec Dieu selon son humanité. Il va vivre de cette vie de Dieu. N'empêche qu'en cet instant de sa mort, il éprouve en lui-même l'abandon de Dieu. C'est très mystérieux. Cela a susciter bien des commentaires, notamment à l'époque des pères de l'Église, parce qu'ils avaient à lutter contre nombreuses hérésies qui estimaient que Jésus n'était pas l'égal du Père, mais était une espèce d'être intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est l'arianisme qui a suscité, qui a détourné de la foi chrétienne un grand nombre de personnes à l'époque patristique, c'est-à-dire au 3e, 4e siècle, dans les premiers siècles chrétiens. Et donc, il tirait parti de cette petite citation de l'évangile pour dire, voyez bien, comment Dieu pourrait-il abandonner Dieu? Et donc, il faut que Jésus soit quelqu'un d'inférieur. Et donc, les pères de l'Église vont réagir en disant que oui, selon son humanité, il a éprouvé cette séparation, mais en réalité, ça n'empêche pas qu'il soit l'égal de son père.
Alors, pour nous aider à comprendre davantage ce que l'Église donne à contempler en ce jour, vous vouliez aussi nous raconter une histoire. Cette fois, c'est une histoire tirée donc de la vie de saint François d'Assise. Un jour, saint François d'Assise tire par la manche. Je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais le fameux frère Léonard et saint François d'Assise essayent de l'introduire à la joie parfaite. Alors, ce récit peut paraître fou, hein, mais en ce jour, peut-être pas grand-chose ne paraît fou. Et puis, saint François d'Assise, on ne peut pas dire que c'était quelqu'un de prime abord qui paraissait très sensé. Racontez-nous cette histoire.
Oui, on a pu dire, non sans quelques raisons, que c'était le seul fol en Christ de la tradition occidentale. On sait que dans la tradition orientale, notamment russe, il y a ces folles en Christ qui ont des comportements un peu bizarres, mais épris d'amour pour le Christ, sont
bizarre,
prêts à faire des folies.
Parfois très bizarres, hein, des hommes qui se pendent à des branches et qui se balancent pendant 10 ou 20 ans et qu'on prend pour des fous. Enfin, le fond, c'est qu'on les prend pour des fous. Ils ont apparemment un comportement fou et en fait, ils sont d'une grande sagesse.
Ils sont d'une grande sagesse, cette folie de la croix qui est la sagesse véritable en réalité. Bon, on s'était demandé si les apôtres, le jour de la Pentecôte, n'étaient pas pleins de vin doux. Et en fait, ils étaient simplement animés par l'Esprit Saint qui leur faisait faire des actes insensés aux yeux des hommes, mais en réalité témoignant de la véritable sagesse, celle de Dieu. Donc saint François, oui, est épris de Dieu. Et il donne cet enseignement sur la joie parfaite qui ne consiste pas même à faire des miracles, à obtenir de grandes conversions, à attirer dans cet ordre des franciscains beaucoup de monde. Ce n'est pas ça la joie parfaite. Et c'est plutôt d'être rejeté par ses propres frères. Il imagine une scène où il se présenterait à la porte d'un couvent un peu tard le soir et le frère portier, très grognon, finit par lui ouvrir le guichet de la porte et pour l'envoyer promener et au lieu de l'accueillir pour la nuit dans son couvent. Il dit c'est là qu'est la joie parfaite. Pourquoi est-ce une joie parfaite? Non pas parce que c'est le maximum d'embêtement qui donnerait le maximum de joie. Saint François n'est en aucune façon masochiste. C'est une joie parfaite parce que ce couvent que, en réalité, il a fondé, en créant cet ordre des franciscains, des frères mineurs, il s'en fait rejeter. Autrement dit, cette fondation qu'il a accomplie, c'était uniquement pour Dieu, pour l'Église, pas pour lui-même, pas pour en recevoir la reconnaissance que reçoit habituellement un fondateur de la part de ses frères. C'est le père fondateur, en général, on le reçoit bien. Et là, c'est le contraire qui se produit. Et donc, cela signifie que cette fondation qu'il a accomplie, elle est entièrement donnée et il se donne lui-même dans cette fondation au lieu de recevoir quelque chose. C'est donc la gratuité de l'amour qui produit en nous la joie parfaite.
Alors l'histoire est belle, mais on peut avoir du mal à rentrer dedans. Si je transpose, par exemple, imaginons vous êtes prieur, vous donnez du mal, et puis un jour, je ne sais pas, ça se passe mal ici, on vous jette dehors, vous venez toquer à la porte, et puis on vous jette et vous retrouvez dans les rues de Toulouse à être obligé d'aller manger au Secours catholique le lendemain matin à 7h du matin, et personne ne voit que vous êtes carme, prêtre, ancien prieur, etc. De passer, on va dire, de la théorie à l'action, il y a un monde. Alors, je sais comment. On imagine que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile de transposer. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs par cette petite histoire que je raconte, pour ceux qui auraient vécu ce type d'humiliation, pour essayer d'entrevoir ou d'accueillir cette joie parfaite?
Nous savons dans la foi que le Seigneur n'abandonne pas ceux qu'il aime. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il va leur faciliter la vie, mais il leur donnera toujours la force d'accomplir ce vers quoi il les envoie. Et s'il les envoie vers une épreuve, ce sera avec la force nécessaire pour accueillir cette épreuve. On peut trouver Un autre exemple, par exemple, chez la petite Thérèse.
Donc Sainte Thérèse de Lisieux.
Sainte Thérèse de Lisieux, qui meurt de la tuberculose à l'âge de 24 ans, encore très très jeune, sans avoir rien fait d'extraordinaire. Et dans sa souffrance physique, dans sa souffrance morale aussi, elle est toujours soutenue. Seulement, elle dit en même temps, je ne demande pas au Seigneur de m'envoyer d'autres souffrances, parce que celles que j'ai, il me donne de les supporter, mais celles que je réclamerais, ce seraient mes souffrances à moi, et je n'aurais pas la force de les supporter.
Pour finir, vous m'avez donné cette phrase, entre autres donc à lire. Je vais la citer et puis je vais vous laisser finir cette deuxième partie là-dessus. « Le don de soi comporte pour le voyageur inéluctablement la souffrance. Mais nous croyons pouvoir affirmer qu'en Dieu, il n'entraîne que la joie parfaite et non plus la souffrance. » Alors on reste dans ce qui peut apparaître comme une folie. Et ce texte conclut « Si l'on veut voir dans cette affirmation un paradoxe, ce paradoxe est celui-là même des béatitudes et donc même de l'évangile. » Expliquez-nous cette clé en fait. Souvent on dit que le vendredi saint, enfin, le vendredi saint c'est donc la clé de la vie chrétienne, enfin c'est le dimanche, mais on va dire c'est ce qui fait entrer dans la vie éternelle. Ce renversement de valeur, est-ce que ça veut dire que c'est normal qu'on ait du mal en fait à comprendre quelque part tout ce que vous venez de nous donner à méditer parce qu'on n'a pas le bon logiciel en fait, les valeurs de Dieu sont complètement inverses aux nôtres. Expliquez-nous cette phrase, ce paradoxe apparent et cette folie en fait que vous proclamez là.
Les béatitudes, de fait, si on les lit en essayant de quitter l'habitude que nous avons de les entendre et qui les banalise par trop, les béatitudes sont une véritable folie. Lorsque Jésus nous dit « heureux ceux qui pleurent », c'est un paradoxe étonnant. Et cela était valable à son époque, comme ça reste valable aujourd'hui, ça reste tout aussi choquant, paradoxal, pour celui qui entend cette phrase dans sa nouveauté, heureux ceux qui pleurent. Alors, on est triste et on est heureux en même temps. Cela nous donne, nous dévoile quelque peu le mystère même de Dieu, de ce Dieu qui n'est que don de soi, un don qui ne s'accomplit pas effectivement dans la souffrance, parce que ici-bas, lorsque on se donne soi-même jusqu'au bout, c'est toujours accompagné de souffrance, et nous en avons l'exemple suprême dans la passion, la croix de Jésus. Mais en Dieu, il ne reste plus que la joie de se donner, comme on peut toucher quelque peu de cette joie dans la mère qui veut donner tout pour son enfant et qui est prête à se sacrifier pour son enfant. On connaît par exemple l'histoire de cette mère qui, pour pouvoir garder son enfant, refuse une chimiothérapie, pour pouvoir mettre au monde son enfant. Elle donne réellement sa vie pour son enfant et ça reste une joie pour elle malgré la souffrance. En Dieu, la dimension de souffrance disparaît. Il ne reste plus que la joie extrême du don total de soi-même.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour que vous nous donniez votre témoignage. Voilà, vous avez dans le choix de votre vie religieuse et puis après, la manière de la rechoisir, vous avez des choses à partager aux auditeurs qui peuvent peut-être les aider à rentrer dans ce vendredi saint. Ce mag donc du vendredi saint en direct toujours du couvent des Carmes à Toulouse pour donc cette ce tridium pascal. Nous sommes aujourd'hui avec le frère Jean-Fabrice qui est prêtre religieux carme de ce couvent et donc prieur de cette communauté. Dans cette dernière partie, comme votre frère Maximilien Marie et comme demain Jean-Emmanuel de Hénat, très généreusement vous avez accepté de parler à la première personne. On imagine que c'est pas forcément simple, on vous en remercie, surtout enfin ça dépend des tempéraments. Vous vouliez nous aujourd'hui donc vous avez 55 ans, vous êtes né en 1964 et quand vous aviez 20 ans, vous étiez donc étudiant à Saint-Étienne. Vous m'avez dit donc entre 84 et 87, vous étiez en école d'ingénieur. Et vous posiez ou vous reposiez la question de la vie religieuse. Contextualisez un petit peu ce témoignage davantage. Dans quelles circonstances est revenue cette, la question de la vocation?
Tout d'abord, je crois qu'être chrétien, c'est avoir rencontré le Christ. Ça n'est pas simplement croire des choses au sujet de Dieu, au sujet du Christ, au sujet de la Trinité, c'est rencontrer quelqu'un. Et lorsque on l'a rencontré, se pose un jour la question de savoir s'il ne mérite pas qu'on lui consacre toute sa vie. Donc cette question m'avait un peu
traversé pendant l'adolescence. Ça veut dire que vous l'aviez déjà rencontré?
Oui. Et puis j'avais cru trouver une réponse dans le fait que j'avais passé assez brillamment mon baccalauréat et j'étais rentré dans les classes préparatoires. Ça s'était passé assez bien, donc il m'avait semblé que le Seigneur, à travers cela, me disait « Bon, ben voilà, sois ingénieur, sois un bon ingénieur et exerce ton métier pour l'utilité de la société. » Voilà. Donc, la question me semblait claire. Et voilà que, au début de mes études d'ingénieur, après avoir passé les concours et être entré dans cette école, la question se repose à moi de manière un peu inattendue, puisque je croyais qu'elle était résolue. Et c'était donc un très fort bouillonnement dans ma tête. Mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors, est-ce qu'il voulait que je sois plutôt au service de la société par mon métier? Est-ce que, au contraire, il me veut dans la vie religieuse, mais comme prêtre séculier? C'était très troublé dans ma tête.
Mais ça vient comme ça, ça vient un matin en se rasant, comme dirait Nicolas Sarkozy, ou c'est plus diffus,
Non, c'est sans doute plus diffus.
Vous nous rassurez.
C'est plus diffus. En revanche, la réponse m'est venue assez brutalement, puisque je peux vraiment donner le contexte dans lequel ça s'est passé. J'étais allé faire une petite retraite dans une communauté religieuse à proximité, et c'était l'automne. Donc, forcément, les textes liturgiques à ce moment-là ne parlaient pas du sujet sur lequel je me suis trouvé médité, qui m'a sans doute été plutôt donné providentiellement, parce que l'Esprit Saint nous guide toujours, et j'en suis venu à méditer sur le jardin des Oliviers. Et ce moment où Jésus dit à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et j'ai compris que ces paroles étaient en fait pour moi aussi, valables pour moi aussi, c'est-à-dire que dans cette espèce de bouillonnement dans lequel je me trouvais, cette agitation intérieure qui me troublait, il était temps que je dise « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est-à-dire que pour le moment, tu me laisses me diriger vers toutes sortes de possibilités sans me dire précisément ce que tu veux pour moi, mais si telle est ta volonté de me laisser ainsi dans l'indécision, eh bien que ta volonté soit faite. Et alors...
Donc vous consentiez au trouble, en fait, qui vous
voilà,
animait, c'est ça?
Exactement, consentir à ce trouble. Et alors, là, j'ai ressenti la paix. Je me suis senti vraiment porté par lui. J'avais remis cette question entre ses mains. Lorsqu'il le voudrait, il me dirait ce que je devrais faire. Pour le moment...
Vous saviez toujours pas où vous alliez, mais vous avez été fait le don de la paix.
Voilà. Qui me disait donc que... Il me répondrait certainement un jour ou l'autre, assez rapidement, et donc que je n'avais pas à m'en faire à ce sujet. Et de fait, assez vite après, j'ai compris que ce serait une vie consacrée à Dieu. Alors, serait-ce dans la vie religieuse, dans quelle vie religieuse, serait-ce comme prêtre diocésain, je ne le savais pas encore, mais les choses se feraient certainement toutes seules, le Seigneur me guidant, et donc j'ai rencontré vraiment cette paix intérieure qui, je pense, ne m'a pas vraiment quitté depuis, même si on peut avoir des moments de trouble, hein. Mais c'est bref, ça n'empêche pas la paix au fond.
Dites-moi, c'est quand même une belle grâce, hein, d'avoir la paix des profondeurs depuis maintenant, ça fait quoi, presque 30 ans, hein, ça fait quand même c'est un beau cadeau qui en fera arriver certains. La deuxième chose que vous voulez nous partager, c'est que une fois rentré au Carmel, donc vous aviez pas fait votre profession solennelle, vous avez eu, alors c'est amusant, je dis ça sans moquerie, hein, mais le frère Maximilien Marie hier nous a partagé quelque chose d'à peu près semblable, mais on imagine que ça n'est pas propre au choix du Carmel, hein. C'est le propre probablement de tout choix de vie. Il n'y a pas eu une déconvenue, mais entre l'idée que vous faisiez du Carmel et ce que vous aviez découvert, il y avait quand même une différence. Et là, s'en est suivi, pareil, une période difficile, une période de trouble, donc une période aussi de souffrance. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, je crois d'ailleurs que c'est un phénomène assez général dans la vie religieuse. Sans doute dans beaucoup d'autres vies aussi, en tout cas pour ce qui me concerne, lorsque s'est présentée la vocation du Carmel, c'était plutôt suite à des lectures que j'avais faites des saints du Carmel. Il se trouve que je les ai lus avant de rentrer au Carmel.
Dans le temps, on peut pas faire de stage au Carmel. Il y a pas.
Avant d'entrer, on est invité à faire des visites. Plus bref, puis plus longue, mais j'étais un peu sur mon petit nuage et les visites ne m'ont pas permis de voir beaucoup de choses de ce qui se passait dans les communautés. En revanche, ça permet aux formateurs déjà d'observer ceux qui rentrent et de discerner si ils semblent avoir une vocation pour rentrer au Carmel ou pas.
Alors vous, qu'est-ce que vous avez découvert entre l'idéal et la réalité? Qu'est-ce qui était l'objet de votre souffrance?
Donc c'est une fois rentré, alors là on vit au quotidien avec une communauté concrète qui incarne la règle et constitution du Carmel et la spiritualité du Carmel dans des humanités tout à fait concrètes. Et donc, ça nous montre qu'on est rentré avec de bonnes intentions, certainement, mais avec une vision qui ne correspondait pas à la réalité.
Alors, qu'est-ce qui était dur, si je peux me permettre? Je vous titille un petit peu, hein, mais qu'est-ce qui était difficile là-dedans? C'est que vos frères n'étaient pas des saints, que tout d'un coup vous vous sentiez à l'étroit. Le frère Maximilien Marie disait hier, ce qui était dur pour lui, c'était le silence en fait. Il s'était rendu compte que c'était une vie où il y avait beaucoup de silence. Et à un moment, il a un peu étouffé.
Je crois que mon expérience est peut-être un peu dans le sens inverse. Où à cette époque-là, nous étions très nombreux à être rentrés au Carmel. Et de sorte que les formateurs ont été peut-être pas complètement débordés, mais enfin un peu dépassés par l'afflux des jeunes. Ils étaient peu nombreux eux-mêmes et donc avaient un peu de mal à faire régner une certaine discipline parmi tous ces nombreux jeunes qui arrivaient, plein de vie, de sorte qu'il ne régnait pas un silence aussi parfait que ce que j'aurais souhaité à cette époque-là, que la vie était sans doute moins ascétique que ce que j'aurais voulu à cette époque-là, et qu'il fallait donc retomber de ce monde un peu angélique que j'avais imaginé, trop angélique bien entendu, à une vie réelle, mais capable de durer. Parce que viser un idéal très haut, ça va bien pour un engagement de quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, mais durer toute une vie, c'est autre chose. Donc il peut être prudent d'être moins idéal dans sa visée et de durer plus longtemps concrètement dans cette vie religieuse.
Alors, comment vous êtes sorti de cette difficulté? Je vois qu'il nous reste 2 minutes.
Mais il s'agissait de rechoisir le Christ dans la vie qu'il m'avait donné de vivre et dans cette vie concrète. En fait, je me suis dit que l'appel qu'il m'avait adressé était un appel à la vie au Carmel, à la vie de prière et aussi d'apostolat au Carmel, et que cette vie-là, je ne la trouverais pas ailleurs, même si je ne la trouvais pas de manière aussi idéale que ce que j'avais espéré au départ, je la trouverais certainement beaucoup moins bien ailleurs et que j'étais bien mieux là où j'étais que si j'étais allé voir ailleurs un autre genre de vie. Donc j'ai choisi d'embrasser cette vie-là telle qu'elle m'était offerte et ça m'a permis de retrouver pleinement cette paix qui était au fond de moi.
Et vous vous souvenez du moment aussi, comme ça? Ça s'est fait, c'est-à-dire progressivement, où il y a eu un moment clé?
Il y a quand même un moment où on pose le choix concret de cette vie-là. C'était au cours d'une retraite que j'ai faite, encore une retraite, tiens, cette fois-ci, lorsque je prenais le mois de retraite en solitude, que je prenais régulièrement à cette époque, parce que je pouvais encore le faire. Quand on est prieur, c'est beaucoup plus difficile.
Eh ben, merci beaucoup, frère Jean-Fabrice, de nous avoir accompagnés en ce Vendredi Saint. Voilà des choses probablement à méditer, à remédier en cette journée. On ne fait pas évidemment le tour de tout cela en une émission. Merci de votre accueil et de votre générosité. On donne rendez-vous aux auditeurs. Je fais signe à mon directeur à midi pour l'office du milieu du jour, l'office des lectures, pardon. Bref, cette émission a été réalisée par Francky Guéret et on vous retrouve tout à l'heure.